Bonjour et bienvenue, nous sommes le samedi 8 décembre 2007, il est bientôt Noël, mais il est exactement midi.
Éphémère est une radio libre, sans pub et indépendante, fondée à Toulouse en 1981. Notre mission, vous faire partager nos passions, nos coups de cœur et ce qui va vraiment faire bouger votre monde.
Éphémère s'invite dans vos oreilles aujourd'hui avec, pour commencer,
et maintenant,
le supplément week-end avec l'actu BD, ciné, DVD, TV,
suivi de
ça, c'est du sport, les résultats sportifs en direct des vestiaires, de l'infirmerie et du compte en banque de Canal+.
Et ensuite,
à 15h, Jazz Not Dead, c'est du reggae, attention, hein. 17h, ça c'est de la bonne viande, ça c'est de la barbaque. 18h, Big Bang, ça c'est explosif. 19h, Made in Trance, ça c'est souvent de la techno. 20h, la CTRO Experience, je vais pas arriver jusqu'au bout, tant pis. C'est de l'électro bien barré. 21h39, Love See You Two Step. Et à 23h, le potager, c'est du rock français scénique. Voilà. Bonjour Thomas.
Bonjour Xavier.
J'ai débordé sur mon propre planning et tout, je suis plus en rythme, c'est une catastrophe.
T'es rouillé.
Ouais, ouais.
T'es foutu.
Ouais, je dois être un vrai nerd.
Fucking poses.
Rockstar avec Nerd, N-E-R-D.
Almost over now. You can't be me, I'm a rock star. I'm rhyming on the No one ever really dies. Do you believe that? Well, if not, for you, it's almost over now. Almost over now.
Nerd, on en parlera tout à l'heure, mais avec un Z à la fin.
Oui.
Et sans le duo Neptunes.
C'est autre chose.
Voilà, c'est autre chose. C'est quand même un truc de Jones aussi, quoi. On verra ça tout à l'heure. En attendant, petite intro musicale. Après notre petite intro musicale qui, à ce qui paraît, selon Thomas, a été utilisée dans un film hautement intellectuel et sûrement réalisé par Godard.
Ouais, presque, en fait. C'était Fast and Furious Tokyo Drift.
Super. En plus, Tokyo Drift, hein, le plus merdique de tous.
Ouais, c'est le 3. Bon, on va pas dire que les deux autres étaient bien, mais...
Voilà, aujourd'hui, hommage à Stockhausen, grand compositeur allemand de musique concrète, et qui nous a quittés cette semaine. Voilà, je vois que tout le monde s'en fout, ça fait plaisir. Merci. Pas mal de news, primo, que Noël approche. Secondo, qu'il y a déjà eu les prix qui ont été remis, et notamment le prix de la critique, la bande dessinée. J'ai pas eu le temps encore de m'y pencher dessus, donc sur celui qui l'a emporté. Pour vous faire un dossier qui est relativement correct, puisque en fait cette année c'est un devoir de mémoire qui a été récompensé. C'est une bande dessinée sur la déportation et l'extermination des juifs, mais attention, c'est une bande dessinée qui a été dessinée par une personne qui a vécu ça. Elle a vécu ça jeune, et ensuite donc elle en a survécu. Elle est devenue animatrice chez Disney, elle a appris à faire énormément de dessins animés et de bandes dessinées. Et à l'aube de ses 80 ans, elle s'est lancée là-dedans, dans une bande dessinée pour raconter la Shoah de l'intérieur. Ce qui est très fort, ce qui est osé, ce qui est courageux, ce qui n'avait jamais été fait d'ailleurs en bande dessinée, hein, par quelqu'un qui a vécu ça de l'intérieur. Et très tardivement, étonnamment, mais peut-être le temps justement que la bande dessinée soit relativement connue d'une manière adulte. Et qui donc a été récompensé par mes pairs de l'association et critique de la bande dessinée, et qui donc a eu le prix de la critique pour l'année 2007. Voilà. Et qui donc sera remis normalement, ça devrait se dérouler juste avant le Festival d'Angoulême. Festival d'Angoulême dont on a eu le programme. Thomas.
Ah ben, c'est plutôt toi le spécialiste. Moi, j'ai surtout vu qu'il y avait l'espace.
C'est le 35e, c'est le 35e donc festival de bande dessinée d'Angoulême.
Voilà,
c'est... Qui a d'international maintenant, la visioconférence.
Voilà.
À l'espace Franquin.
Oui, parce que l'espace Franquin cette année sera exclusivement dédié à la culture manga.
J'ai l'impression qu'on va encore se taper les chaises assez inconfortables de la mairie, non?
Ah, je sais pas. Bon, en tout cas, oui, il y aura une exposition sur Clamp avec justement la visioconférence à laquelle tu faisais allusion tout à l'heure. Donc cette année, c'est José Munoz qui est le président du jury qui nous a concocté une expo sur la bande dessinée argentine.
Et une bande dessinée argentine qui a fait pour beaucoup, entre autres pour un certain Goscinny. Il ne faut pas oublier, puisqu'il a été originaire d'Argentine et il a vu Fumetti, c'est le nom italien, je me trompe. Mais il a vu toutes ces bandes dessinées, justement, argentines dans son enfance, il s'en est inspiré, et ainsi que ce qui venait des États-Unis. Donc voilà, donc ça, on vous en reparlera un peu après et plus tard de plein d'autres choses. De ce côté-là, on sera à Angoulême. Je sens que ça va être
pourquoi
la joie.
Pourquoi tu prends cet air dégoûté? Pas du tout. Angoulême, c'est génial.
Ça va être l'horreur pour mon porte-monnaie. Ça va être ignoble. Voilà, et pendant qu'il y en a un qui s'est amusé à gribouiller l'affiche d'une célèbre série de ABC dans les locaux de la radio, ce qui fait qu'il n'y a plus qu'un os. Du sport vient d'arriver. Et c'est pas lui, voilà. Et donc on va peut-être entamer les sorties bande dessinée.
Bon, j'ai fait du café là.
Ah, super! Génial! C'est parce qu'à chaque fois en fait que je fais la rubrique de du sport pour cause d'hypoglycémie, puisque comme déjeuner, par exemple ce matin j'ai pris que 3 chips aux crevettes en guise de petit déjeuner, des fois je commence un petit peu à dandoliner pendant la rubrique de du sport et qui me dit ça y est, ça suit pas, la réalisation part à volo. Donc là il y a pensé. et contre-effet du froid. Merci du sport. Merci.
Merci du sport.
Merci. Voilà, c'était un hommage à Stockhausen musical. À savoir que c'était, si je me trompe, oula, c'est illisible à chaque fois, une fois de plus, un remix d'un morceau de LFO par Spiritualized. On va commencer avec pas franchement de la bande dessinée puisqu'il s'agit d'un ouvrage assez épais encyclopédique autour d'un éditeur de bande dessinée. Patrick Gomet qui donc est le titre qui a la personne qui est derrière pardon le Larousse de la bande dessinée qui est l'ouvrage de référence justement sur les biographies des auteurs. En France, et ben Patrick Gomet vient de sortir le troisième tome de d'une encyclopédie, Le Lombard, l'aventure sans fin. Le troisième tome couvre en fait les années 1996 à 2006 et c'est bien évidemment édité chez Le Lombard. Ben tiens. Les éditions du Lombard furent créées par Raymond Leblanc, historiquement connu pour avoir ainsi sauvé Hergé de la déchéance de sa citoyenneté belge et de l'interdiction de publier au lendemain de la libération. Il faut dire aussi que les aventures de Tintin, notamment Tintin et l'île noire, ont été publiées dans le journal Le Soir qui a été volé par l'occupant. Et ben, le résistant Raymond Leblanc, lui, a rendu un travail à Hergé et créé un journal pour Tintin. C'est en septembre 1946 que Tintin, donc, eut enfin sa propre revue de bande dessinée, pouvant enfin réaliser face au journal de Spirou et à celui de Mickey, qui fut aussi occupé par d'autres séries de bande dessinée. Le Lombard est un éditeur qui a un catalogue conséquent de séries propres, notamment Ricochet, Torgal, ouais, ouais, Robin Dubois, Bob ouais, Moran,
ouais,
qu'il a su mettre en valeur en rééditant régulièrement des intégrales. Voire parfois en publiant des ouvrages sur les auteurs ou les séries. Il y a réellement chez le Lombard une volonté d'exploitation de leur back catalogue, c'est-à-dire en fait ce que l'on appelle les archives.
Les fonds de tiroir.
Pas forcément les fonds de tiroir, justement. Là-dessus, ils prennent parti justement de bien mettre en œuvre les aventures de Bruce Hawker, par exemple, qui ont été dessinées par William Vance, le dessinateur de 13. Ben, c'est pas franchement du fond de tiroir. Mais justement, ils mettent pas mal d'extensions dans les albums, des textes écrits en plus, qui est très intéressant à relire. C'est-à-dire qu'en fait, ils font autre chose que ce que faisaient Casterman et Dupuis. Quoique Dupuis un peu moins, justement, de ce côté-là. C'est-à-dire rééditer tout simplement les albums. Vas-y, je te réédite le Scramustache, vas-y, je te réédite les Lucky Luke, etc. Sans en changer un iota. 1986, Raymond Leblanc vend son entreprise à Média Participation, une holding qui comportait déjà, si je me trompe, les éditions Fleurus, et qui racheta dans la foulée les éditions d'Argo. C'est aussi la fin d'une époque. Le début de la décennie 1990 vit le déclin de cette génération d'hebdo. C'est ainsi que disparurent Pilote, Charlie et l'ultime réincarnation du journal de Tintin, suivi de Trépé pour avoir la suite par Metal Hurlant, Glou aussi, et bien évidemment les éditions Casterman avec à suivre. Comme quoi, ça a été vraiment la fin de la prépublication de la bande dessinée. 1996 sera un nouveau printemps. Les 10 dernières années ne furent pas sans création pour le Lombard. Mise en place de la collection humoristique 3ème degré, la collection graphique signée qui se concentre autour de One Shoot et la mise en avant justement du travail des dessinateurs, la 3ème vague ou d'autres orientés plus adultes comme Niklos Koda, IRS et Alvin Nord. Après deux tomes consacrés à la saga du journal de Tintin, Patrick Gomet continue sa chronique et raconte la renaissance de l'éditeur belge. Malheureusement, il y a un problème. Patrick Gommet, qui dirige le Larousse de la bande dessinée, participe ici à un ouvrage qui n'est pas critique, mais juste une suite d'événements vus en faveur de l'éditeur. Des fois, on a l'impression d'avoir une compilation de communiqués de presse. C'est un petit peu dommage. Mais réduire ce livre à un bête catalogue serait trop réducteur. D'abord, les résumés annuels mettent en perspective avec les événements contemporains, mais aussi avec les productions BD des éditeurs concurrents. Et ce qui est quand même une belle preuve d'ouverture. Et puis le fait de montrer les communiqués de presse au grand public, surtout les dossiers de presse, c'est aussi l'occasion de voir l'excellent travail de communication qui est fait dans la bande dessinée. Un bon ouvrage qui permet de revenir sur les 10 dernières années de production franco-belge, chez un éditeur qui ne fait ni manga, ni comics, ce qui est une exception dans le paysage éditorial franco-belge. T'as eu, toi, du sport, le journal de Tintin? Bah, journal de Tintin, aventure, alors que Spirou, c'était plus Gaudriol. Et puis, il y avait à côté de cela un pilote qui était plus côté humoristique, délirant.
Oui, on était abonnés aux deux.
T'es abonné aux deux, ouais. C'est un peu la nostalgie.
Il y avait également Pif.
Ouais, mais le journal de Tintin, lui, il a essayé de se battre pour encore continuer à exister. Ils ont vraiment eu du mal, hein. Il y a eu le journal de Tintin, puis ça a fermé, ça a été Tintin Hebdo, puis Tintin Reporter, puis Hello BD, ça a coulé, quoi.
La forme que j'ai connue, qui n'était pas la forme originale, la première, parue dans les années 50, mais celle des années 60, hein, début des années 60, mi-années 60, c'était vraiment le Tintin le plus abouti, quoi qu'il y ait dedans quand même des beaucoup de sujets à controverse. Je crois que c'est dans le Tintin en plus qu'il y avait les histoires de l'oncle Paul, quoi, enfin des trucs comme
non,
ça.
Non, ça c'était dans Spirou.
C'était dans le Spirou, ouais, c'est ça, quoi.
C'était dans Spirou. N'essaye pas d'embrumer, d'engrainer le spécialiste de la manga que je suis. Non, c'était dans Spirou, voilà, je confirme. Et à noter quand même que si Dargaud et Lombard sont très très liés, c'est pour une raison relativement simple à expliquer. C'est que tout simplement, Dargaud a été l'importateur en fait des séries éditées par le Lombard en Belgique. Et le Lombard éditait les séries de Dargaud pour la Belgique, enfin les distribuait plus exactement. Et ça a été l'occasion d'une amitié-rivalité assez étrange en fait entre Georges Dargaud et Raymond Leblanc. Donc voilà, là-dessus, si vous voulez en savoir plus, il y a les deux précédents tomes, le Lombard, l'aventure sans fin. Donc le troisième tome est sorti 96-2006 par Patrick Gommet et c'est aux éditions Lombard. De Grotte au scénario, Berkovici au dessin. Dire quelque chose ces deux noms-là.
De Grotte, oui.
Turc et De Grotte.
Turc et De Grotte, là.
Voilà. Et Turc, c'est le dessinateur et De Grotte, c'est le scénariste. Bob De Grotte, qu'on a eu en interview d'ailleurs dans le supplément week-end. Berkovici, lui, c'est le dessinateur. Père Noël et fils, le deuxième tome en bûche de Noël, vient de sortir dans la collection Paris-Bruxelles chez Glénat. Oh! Livrer les cadeaux aux enfants, c'est toujours toute une aventure. Il faut couvrir en 24 heures une planète entière et gérer des situations très particulières. Par exemple, comment voulez-vous arriver à livrer une horloge à W sans risquer la fouille au corps, ce qui serait une immense perte de temps? Ou encore arriver à faire enregistrer un nouvel album de chansons de Noël par de Miss Roussos, évidemment avec la toison généreusement imbibée de neige artificielle. Enfin bon. Et puis il y a tous les petits soucis logistiques, comme par exemple la panne du GPS du chariot, les envies pressantes des rennes et les revendications salariales des petits lutins. Risquer un mouvement social au mois de décembre, en général, c'est gâcher complètement la fête de Noël à coup sûr. Là-dessus, Raffarin et bientôt Sarkozy vont s'en rendre compte. Sans compter le fisc, parce qu'une personne aussi généreuse, dilapidant en cadeau une fortune colossale tous les ans, a forcément des rentrées d'argent non déclarées, voire parfois douteuses. Je ne dirais pas que le Père Noël a des intérêts dans la poudreuse, mais quand même. La rencontre entre le scénariste Bob De Grotte, le scénariste de Léonard et de Robin Dubois, usuellement dans l'équipe du Lombard, et du dessinateur des femmes en blanc, donc Bercovici chez Spirou, le concurrent du journal de Tintin, n'a pu que faire des surterrains neutres. En l'occurrence, la collection explicitement réservée à la bande dessinée franco-belge classique chez Glénat, Paris-Bruxelles. Évidemment, le duel essaignant tire à boulet rouge sur la vue de la moindre houppelande. C'est poilant, c'est à hurler de rire et ça devrait réjouir petits et grands. Bob de Grotte au scénario, de Bercovici au dessin, Père Noël et Fils, le deuxième tome s'appelle Embûche de Noël, c'est dans la collection Paris-Bruxelles chez Glénat. Juste une chose, faut pas se leurrer exclusivement sur le côté bande dessinée occasionnelle, juste sortie pour Noël. Il y a quand même eu des trucs qui étaient pas mal, les aventures de Petit Papa Noël et plein d'autres choses qui étaient plutôt bien avancées. Les aventures de Petit Papa Noël, si je me souviens bien, c'était fait par Lewis Trondheim. Donc voilà, c'est pour ça que ça ne dit rien. Un culte, Thomas, un culte. Petit Noël, Père Noël et Fils, le deuxième tome donc s'appelle Embûche de Noël. On abandonne l'ambiance de fête pour un été chaud et torride sur la ville de Zhihai. Wang Jiawei et Wang Bang Yasan, c'est une série chinoise, cette fois-ci éditée dans la collection Made in Shekana. Et j'espère que notre traductrice ne m'écoute pas massacrer les noms. Aïe, aïe. Plus une goutte d'eau ne circule dans la rivière, les robinets ne coulent plus et même les égouts sont à sec. L'odeur qui remonte dans les maisons est proprement pestilentielle. Le village de Mupansen est délaissé par les services d'hygiène qui préfèrent se concentrer sur le quartier le plus aisé de la région. On ne parle pas de corruption, mais celle-ci semble aussi présente que les ordures dans le village. Yasan est un jeune homme qui a été recueilli tout bébé, dérivant dans les égouts. Il est atteint d'une maladie étrange qui lui font craindre la lumière et l'empêche de faire des mouvements violents. Son grand-père pêcheur a disparu, tout comme les poissons de la rivière. Et son père travaille comme égoutier. Une histoire très banale jusqu'à la mort de Chiao Hua. Une jeune fille retrouvée plantée dans la boue du canal, la tête vers le bas, droite comme un piqué. Yan San trouvera au même moment dans le phare une étrange apparition d'une jeune fille qui se décompose en verre. Mauvais présage, les fantômes rôdent autour du village et les insectes semblent les seuls êtres à se satisfaire de cette sécheresse crade. La ville panique de plus en plus alors que les morts particulièrement étranges se répandent comme une épidémie. Que dire sur Yan San sur le premier tome ? Eh ben, le graphisme au crayon donne un cachet encore plus trouble à cette ambiance glauque, mais hélas, le scénario semble aller cas à cas. On se perd facilement entre les différents événements. Il y a trop de situations différentes pour que l'histoire passe de manière réellement fluide. Le déroulé du script semble parfois assez malhabile. C'est quand même un peu dommage parce que graphiquement...
Ah, c'est la baffe. C'est la baffe dans la gueule.
C'est au crayonné, au fusain, on ne sait pas trop. Mais en tout cas, il y a justement le côté brouillon, crade qui ressort énormément. Et...
Bah, crade et surtout, tu vois que le mec, c'est pas un manchot, quoi.
À l'aise.
Voilà, avis de professionnels et d'experts. Donc c'était celui du sport, bien évidemment. Donc moi mon seul regret, c'est pour ça un peu que j'ai peut-être eu du mal à rentrer dans l'histoire, c'est qu'on a du mal à appréhender ce qui fait partie du reste, ce qui se passe à différents endroits. C'est assez confus de ce côté-là. C'est ce qui dessert peut-être un peu l'album. Yasan, le premier tome donc de Wang Jiawei et de Wang Bang est sorti dans la collection Made in Shekana. Midi 25, c'est l'approche de Noël, donc je nique la pub.
We'll be right back.
Les sorties cinéma vous sont présentées en Dolby Mono surround par Thomas.
Avec la légende de Beowulf aujourd'hui.
Faudrait vraiment que tu t'achètes des couilles pour faire comme moi. La légende de Beowulf. Tu vois, de suite, ça fait tout de suite peur à la musique, elle y va avec entrain.
Dans l'ancien temps au Danemark, le château du roi Rødgar est régulièrement attaqué par le terrible Grendel. Ah voilà, il fait des trucs comme ça au début. Et c'est une immense créature vivant dans une grotte à côté du château. Et en fait, devant un carnage, parce qu'en fait, ils ont mis à ripailler, mais la salle des réjouissances est régulièrement attaquée et décimée. À chaque fois, il y a plein de sang sur les murs, c'est dégueulasse. Donc le roi, il en a marre et puis il dit « Bon, je voudrais bien offrir plein de fortune et la gloire à celui qui me débarrassera
plein de
Grendel. »
Plein de fortune ? C'est pas plutôt plein de pognon dans la VO ?
Ce serait plus logique. Ça ne dit pas pognon ni rien. Et là, en fait, il y a le viking Beowulf qui est venu de la mer et qui arrive avec son bateau. Et voilà. Alors... Au départ, il s'agit d'un poème du 8e siècle qui se transmettait oralement et qui a été consigné par écrit par des moines copistes au 11e siècle. Alors, faut savoir que le film, il y a eu un travail d'adaptation par Roger Avary. Donc, c'est le co-scénariste ex-meilleur ami de Tarantino qui avait co-scénarisé Pulp Fiction et qui a aussi réalisé ensuite les Doigts de l'Attraction et Killing Zoé. Et il a co-scénarisé donc La Légende de Beowulf avec Neil Gaiman. Le Neil Gaiman donc qui a écrit un bouquin donc sur Douglas Adams et qui a scénarisé Sandman voilà.
Enfin c'est un scénariste de comics assez allumé, c'est aussi un romancier qui a notamment fait les dieux modernes qui est assez énorme.
Alors leur travail d'adaptation est une morale sur le pouvoir, sur l'avidité, qui est symbolisée très métaphoriquement par un objet doré, avec un espèce de monstre difforme qui a un peu à voir avec de l'humain. Ça vous dit pas quelque chose ? Ça rappelle, le Seigneur des Anneaux avec Gollum, avec l'anneau de pouvoir. Et c'est pas étonnant puisque l'un des plus célèbres spécialistes de la légende de Beowulf n'est d'autre que Tolkien lui-même. Donc voilà, on peut voir pas mal de parallèles entre le Seigneur des Anneaux et la légende de Beowulf. J'ai parlé de Gollum, mais aussi tout le peuple du Rohan qui est inspiré des légendes nordiques. Donc voilà. Alors le film, ça utilise la technique de la performance capture, qui est une technique qui consiste à barder de capteurs le corps de vrais comédiens qui font les vrais gestes et qui sont ensuite retranscrits en 3D en fait, en infographie avec un souci du réalisme assez saisissant. Donc Zemeckis, donc c'est le réalisateur de Roger Rabbit, de la trilogie Retour vers le futur, de Forrest Gump,
le Pôle Express aussi.
Voilà, le Pôle Express. Il y avait la même technique, dans un registre cartoon, mais ouais. Voilà. Alors là c'est pas du tout registre cartoon, hein, vous l'aurez compris. Alors cette technique, elle est très sympatoche parce que ça permet justement de placer la caméra aux bons endroits, un truc qui est infaisable d'habitude par exemple quand il y a un cheval qui court dans les flammes, et ben la caméra elle est sur la planche qui va craquer. Après par exemple il y a les guerriers qui surgissent de la mer, et ben t'as la caméra qui fait des mouvements vachement fluides, elle commence à aller vers le ciel, après elle revient sur le bateau qui est en proie aux furies des vagues et tout, tu dis oh là qu'est-ce que c'est beau. Et alors voilà, ensuite là on est très loin des manières de Disney pour représenter les combats avec des dragons, parce que chez Disney le mec il a une main dans le dos et dit haha je vais toxir espèce de dragon et tout, alors là c'est pas du tout ça les combats de dragon, c'est oula mais ça brûle,
ça dans ta gueule.
Il y a les membres, t'as mal aux membres, hein. Il y a certains qui peuvent partir aussi, donc voilà. Le massacre du début, c'est une plongée.
L'intégrité physique de l'acteur n'est pas garantie dans ce genre de film.
Du personnage, on va dire.
Personnage, ouais. c'est ça qui est agréable, je veux dire.
Voilà, ouais, il y a jamais eu de combat de dragon, mais s'il y avait eu des combats de dragon, c'est certainement comme ça que ça se passait. Donc les massacres, c'est pas du tout là, c'est dans les anneaux, ou c'est de loin, où t'as juste peut-être un membre coupé de temps en temps pour dire attention, il y a aussi des massacres.
Fait mal.
Voilà. là tu vois les corps et tout. Ouh, ça rappelle un peu Jurassic Park, tu vois, c'est au niveau la boucherie un petit peu comme ça. En plus ce qui fait plaisir c'est que enfin t'as le retour de la burne. T'as le retour du héros couillu, c'est alors vous oubliez
retour de la burne.
Vous oubliez le Néo, les combattants un peu androgynes, inspirés un peu des combattants
métrosexuels.
Voilà, métrosexuels. les tafioles les Yuan Wu pigisés de Hong Kong là, donc les Américains disent ouais, oh, regardez, on fait des trucs asiatiques. Non, vous oubliez
enfin,
tout
pas,
ça.
Pas un Néo sans aucun muscle et qui se la joue à grands coups de fil. Non, là il y a
voilà, donc là il y a de la baston à poil, il y a les muscles,
de la testostérone,
les muscles bandés avec des gars barbus couillus et qui disent on va leur péter la gueule. Voilà, c'est le retour. D'ailleurs c'est amusant puisque bon, on va quand même évoquer qu'il y a eu une autre adaptation, plusieurs autres adaptations de Beowulf. Il y en avait une avec Christophe Lambert où il avait les cheveux blancs, et il y a aussi une adaptation beaucoup moins connue chez nous, anglo-canadienne. Ça s'appelle Beowulf et Grendel. Donc il y a Stellan Skarsgård dedans. Forcément, ça se déroule au Danemark, donc il nous faut un Danois. Et dans le rôle de Beowulf, un certain Gérard Butler, qui vous dira certainement quelque chose. C'était le Léonidas de 300. On y revient toujours. Voilà, les héros avec des couilles qui sont revenus. Ça fait super plaisir en tout cas.
Amateur de couilles, donc satisfait.
Il y a de la couille, mais aussi du cul. Il y a aussi du cul, puisque dans le rôle de la sorcière dont on ne vous parlera pas trop.
Mesdames, vous n'êtes pas oubliées. Vous passerez à la casserole vous aussi.
Voilà, il y a Angelina Jolie qui prête son corps bardé de capteurs au film. Alors bon, c'est du cul en 3D, hein, mais enfin de la gonzesse à poil en 3D, mais quand même de la gonzesse à poil. Donc ça fait toujours plaisir de voir Angelina Jolie jouer le rôle de la sorcière un peu venimeuse et qui va aguicher le héros sans peur et sans reproche. Voilà, donc c'est un film qui a un sous-texte avec une morale, enfin le conte avec beaucoup de symbolique derrière, qui c'est pas négligeable. On a de la bonne baston, on a du gore, du beau film heroic fantasy qui peut de sa race. Franchement, moi j'étais emballé. Il faut s'attendre à du trash-house par contre, hein. C'est pas du tout édulcoré, c'est pas propre. Donc même il y a du gore, mais du gore malsain aussi. Donc il y a le monstre, les monstres sont super laids, les nanas sont belles. Voilà, ils vont à 150%.
Et les héros sont couillus.
Voilà. C'était la légende de Beowulf, réalisé par Robert Zemeckis, avec Ray Winston qui était plus habitué aux films prolétaires anglais. On a du Anthony Hopkins qui joue le rôle du roi Hodgar. On a John Malkovich. On a du Brendan Gleeson, on a de la Angelina Jolie, que du beau monde. Voilà, c'est un film à conseiller.
Maya dans le rôle du dragon.
Un film à ne pas conseiller à tout le monde, hein. Par contre, c'est quand même être du heroic fantasy, c'est légèrement plus, remuant que Le Seigneur des Anneaux. Hein.
Ouais, tu dirais quoi, 12 ans quoi.
Quand même. Ouais, il faut quand même les avertir avant. Hein.
Ok.
Voilà.
Merci Thomas. Petite coupure musicale dans le supplément week-end, midi 33 sur la poubelle des radios. Audioactive, Psycho Birds.
Greetings, Audioactive. We have an appointment with the Dobe Emperors.
Welcome, Lydia, to the Ultinational Health Service.
Dr. Audioactive, please give us a prescription. Because too many politics are causing division. So many youths out there, and can't make the right decisions. We're here to help focus their minds so they can see with precision.
We'll be right back. out by the skylights. White smiles on their stinking dead faces.
Ouais, je vois ça, oui, du X-Men, oui. Oui, je vois que c'est déjà commencé, c'est ça? Bon, alors on va parler d'une série. Thomas, en DVD,
oui.
Je t'ai tanné le cuir, je t'ai fait chier, je t'en ai parlé jusqu'au bout, et finalement tu as découvert cette série de fou.
Voilà, qui s'appelle Nerds.
Alors
Nerds, c'est pour les nerds.
Pour voilà.
Les fans de culture jeux vidéo, PC... téléchargement, otaku,
clip.
Ouais.
Et le principe de Nerds, c'est une sitcom. Donc, lieu clos, trois caméras, quatre acteurs.
Lui, c'est Dark Angel 64. Ses amis l'appellent 64. Mais comme il n'en a pas, les gens l'appellent Dark. Sa passion, les jeux vidéo. Son revenu, son appartement qu'il sous-loue à... Caroline, étudiante en fac de psycho, qui ne comprend rien aux jeux vidéo. Par contre, elle se plonge corps et âme dans sa collection de poupées de porcelaine. Il loue également à Jérôme, graphiste maquettiste dans un journal culturel. Si on pouvait résumer Jérôme en une phrase, il a trop kiffé le dernier Godard. Et puis, il y a Régis Robert.
Ouais, et Régis Robert, c'est mon prénom.
Donc cette série qui est arrivée sur une chaîne de la DSL, qui est même pas une chaîne du Cap d'ailleurs, elle a été éditée en DVD chez Kazé. Et que dire ? C'est introuvable en magasin parce que les magasins ils se sont dit bon c'est l'animation japonaise mais on connaît pas, personne nous le demande.
Parce que Kaze c'est un éditeur de Japanime.
Voilà, et ensuite c'est mais attendez non mais s'il y a c'est quoi, c'est la première édition donc c'est forcément en VO sous-titré donc il y a pas la VF.
Bah non, c'est français.
Bah oui. Donc actuellement, c'est un peu la croix et la bannière. Bon, je vous préviens, j'ai déjà charogné le seul exemplaire qu'ils avaient commandé à Album. Et il n'y en a plus à Virgin non plus. Hein. Et à la Fnac, je n'en sais pas plus. Donc voilà. Donc, derrière Nerds, il y a une association. Une case en moins. Qui est une association qui a été créée en 2000 à l'origine pour éditer une bande dessinée qui a été publiée dans le cadre d'un défi jeune. Et qui ensuite, eh ben, ils sont amusés à faire plein de petits courts-métrages complètement délirants.
Des courts-métrages parodiques dont les titres respirent la poésie, comme Resident Kitsch ou France 5, la série, c'est ça ?
Non, France 5, c'est pas eux.
Ah, c'est pas eux finalement.
C'est pas eux, je me suis trompé.
D'accord. Après Vérif, bouge dans la liste. Voilà, donc ils ont fait quand même un an à travers les conventions et les festivals, puisqu'ils ont écrémé toutes les sélections, ils ont gagné beaucoup de prix en envoyant leur court-métrage qui pastichait certains éléments de la culture un peu SF fantastique, et de fil en aiguille ils en sont arrivés à avoir des commandes pour Game One, c'est ça Xavier?
Oui, tout à fait. Enfin, ils ont réussi à placer leur film dans Game One, dans les espaces de court-métrage amateur que réserve Canal+. Ils sont même réussi
les films faits à la maison. Oui.
Les films faits à la maison, ils sont même réussi à se retrouver dans le zapping de l'année de Canal.
Oui, avec Davy Moury à poil. Il racontait qu'il y avait ses parents, ils sont tombés dessus. Ah oui, non, mais on s'en est habitué même. Paul Amical Youn.
Donc voilà, ils ont aussi produit pour AB1, pour Canal Jimmy. Et c'est dans la mouvance donc des France Files, c'est-à-dire la parodie justement de cette nouvelle culture underground surmarketée. Underground surmarketée. Bien. Ouais, pour en faire quelque chose. Il se trouve que donc tout tourne autour en fait d'une personne qui s'appelle Davy Mourier qui va sur ses 30 ans maintenant, qui est acteur, scénariste, réalisateur, graphiste et animateur français. C'est donc le fondateur du collectif et l'un des piliers de la chaîne No Life. Ce que l'on ne sait pas, c'est qu'il est aussi le directeur artistique d'un distributeur vidéo qui s'appelle Kaze.
Ah, on y revient. Hein.
On y revient, voilà, et c'est pas un hasard. Donc, No Life est une chaîne qui est consacrée exclusivement aux geeks, qui a été fondée par des anciens, la chaîne Game One, qui ont été virés suite différents désaccords avec l'actionnaire principal de No Life.
Ouais.
Voilà, hein, notamment Marcus le journaliste Marcus qui a été poussé dehors parce qu'il avait dit du mal d'une chaîne d'un jeu vidéo par Infogrames qui était l'actionnaire principal de Game One. Pas classe.
Non.
Voilà, pas classe du tout. Donc cette chaîne de télévision est arrivée en juin 2007, ouais. Voilà, d'abord sur Free, maintenant elle est aussi distribuée sur Alice et sur la 9 Books. Et après, tout simplement, ils leur ont dit, si on faisait un petit truc régulier pour cette chaîne. Et c'est là qu'est sorti Nerds.
Ils ont aussi proposé une minute pour parler d'eux, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Et la minute geek aussi.
Oui, et plein d'autres trucs. C'est une minute pour parler d'eux et la minute geek, c'est un truc, c'est une caméra dans un studio avec un minimum de moyens et puis voilà, on se lance. Et un texte vaguement écrit et des trucs pour se reposer dedans sans aucun problème.
Voilà, donc on parlait de Davy Mourier tout à l'heure qui est le fondateur de Une Case en Moins. C'est lui qui joue le rôle de Régis Robert dans la série. C'est lui qui a scénarisé la série également. C'est son appart qui sert de lieu de tournage. Et il anime aussi l'excellente émission 101% sur No Life.
Il co-anime avec un collègue de Une Case en Moins. Sachant que lui, donc, il fait le lundi, le mercredi. Son copain dont j'ai oublié le nom, c'est le mardi, le jeudi et le vendredi, c'est n'importe qui. C'est, des fois, on a des célèbres producteurs japonais de dessins animés ou de jeux vidéo, pardon. Il y en a un qui est venu, il était en lune de miel.
Il vient présenter sa femme.
C'est un truc complètement détendu du gland. Pour ne pas dire. Il y a aussi l'un des personnages principaux qui participe le plus, il y a Monsieur Poulpe. Qui est donc soi-disant le personnage principal de Dark.
Dark Angel 64.
Mais comme il n'y a pas de Nintendo 64, voilà, il s'appelle Dark. Il y a donc Maëlys Ricordo, Caroline, qui est non seulement c'est la fille, mais en plus elle connaît rien aux jeux vidéo.
Comme dans la vraie vie.
Comme dans la vraie vie.
Comme dans la série.
Mais c'est, elle connaît rien aux jeux vidéo, mais toute l'équipe, c'est-à-dire même le preneur de son, il sait comment faire un Kamehameha dans je sais plus quel jeu et tout. Enfin bon.
Dans Budokai Tenkaichi 2 sur Wii. Donc c'est... il y a des conseils techniques pour lui dire non pour le besoin de la série tu dois jouer à Dragon Ball, donc il dit non c'est comme ça qu'il faut faire le Kamehameha, ah comme ça d'accord, allez reprends ton texte.
C'est quoi un Kamayuka, enfin bon c'est des trucs complètement délirants. Ils ont aussi eu des guests attendus de la chaîne No Life comme Marcus, mais beaucoup plus inattendus, avec dans le rôle de l'inspecteur Bill Baroud,
Tom Novembre,
voilà, qui est un vrai geek mais un allumé. Que même les enfants ils en ont marre des fois.
Ah ouais, ils racontaient sur ils ont été interviewés par le site DVDrama, ils racontaient justement que Tom Novembre avait voulu acheter un coffret DVD d'une série animée qui était disponible que sous-titrée, et ses gamins lui disaient non, c'est encore des sous-titres et tout, et ben ils avaient qu'à apprendre à lire.
Voilà. Ils devraient les faire comme ça, l'éducation de tes enfants du sport. Donc, je suis sûr que ça va les calmer. Et dessins animés en japonais. Oh non!
Il y a un excellent sketch dans le premier épisode de la saison 2 où il interviewe un des personnages qui récurrent de la série et puis il lui dit bon alors tu veux des temps, tu veux un jus d'orange, un petit gâteau et tout. Bon, mets ta gueule de toute façon. Puis il donne une baffe. Hein, excuse-moi, il y a mon collègue qui est parti en vacances, donc le méchant flic et le gentil flic, je suis obligé de faire les deux. Mais l'autre il dit je voudrais consulter mes emails. Non, tu consulteras dans 30 ans quand tu sortiras de prison. Ah ouais, ça va faire beaucoup de spam.
Enfin, il y a que des trucs, c'est complètement délirant. Donc il y a le personnage principal Benjamin Nerdzowski. Vaut mieux dire Dark, hein, ça sera plus rapide. Donc ses parents ont décidé de le lancer dans la vie, lui ont acheté un appartement en lui disant maintenant c'est à toi de trouver de l'argent, de travailler quoi. Et lui, le seul moyen qu'il a trouvé, c'est de co-louer son appartement.
Pour que les autres lui fassent à bouffer,
pour qu'il décolle le moins souvent possible du canapé.
Voilà, de son peignoir, un gars, une fille et sa manette, dont le fil passe entre les boîtes de pizza froides et les bouteilles remplies de pisse, puisqu'il a la flemme d'aller aux toilettes.
Voilà, donc c'est... alors. Si vous accrochez pas à la première saison, c'est un peu dommage parce que la deuxième se déroule en extérieur. Il y a beaucoup plus de dynamique, il y a une écriture qui est de plus en plus maîtrisée. Et de ce côté-là, c'est quand même assez agréable. Autre chose aussi, il faut savoir qu'avant que la chaîne soit lancée, en fait, ils ont fait un teasing de leur série sur Overblog, voilà
le blog de Monsieur Poulpe.
Voilà, coucou Adrien d'ailleurs. Hein, toute équipe d'Overblog est à Toulouse, donc. Ils nous écoutent en plus. Donc ils ont fait des épisodes vidéo. En fait, c'était justement le blog vidéo de
Poulpi, de poulpijoli.com, je crois que ça s'appelle.
Non, même pas. Ils ont créé le blog vidéo de Dark, ouais. Sans expliquer ce que c'était. Donc il y a plein de gens qui ont commencé à laisser des commentaires, à dire ouais c'est n'importe quoi, etc. Et en fait, c'était la bande-annonce de la chaîne de télé. Voilà. C'est ça qui était.
Et il faut savoir aussi qu'ils se sont fait un peu démolir un peu par tout le monde avec les premiers épisodes qui étaient diffusés sur No Life. Le sentiment général a un peu évolué au fur et à mesure. Finalement, il y a trop de fans parce qu'ils ont essayé de placer des répliques assez récurrentes qui reviennent un peu à la Kaamelott. Justement pour faire monter le buzz. Bienvenue en enfer ou lâchez vos coms, etc. Et ils disaient justement là, les gens au cliffhanger de le dernier épisode de la saison 1, ils étaient comme des fous. Ils ont gagné leur public sur la longueur, donc c'est voilà.
C'est ce qui est quand même assez culotté parce que faut rappeler, c'est une série amateur. Voilà. Ils bossent tous dans la vie. Il y en a un qui est hotliner, il y en a un qui est vraiment graphiste, mais qui est un éditeur de jeux de dessins animés. Il y en a un autre qui est directeur artistique. Bref, ils font ça le soir quand ils peuvent, entre 18h et 22h. Mais ils ont un problème, c'est le personnage de Régis Robert.
Passe son temps à hurler comme un mongolien et ça réveille les voisins. Et d'ailleurs, personnellement, moi, ça m'a vachement rappelé l'esprit des nuls à travers Objectif Nul ou les sketchs qu'ils faisaient sur les super-héros, justement, avec Spider-Man, etc. C'est vraiment le même humour, donc c'est bien, assez rafraîchissant, tu vois, le même rythme aussi de prod, puisque tu vois vraiment qu'ils pensent qu'à ça dans leur vie, c'est vraiment des allumés complets, ça fait vachement plaisir de voir ça, ouais.
Et là-dessus, donc c'est justement, on découvre une partie de leur vie dans le DVD en guise de bonus, tous les inter-épisodes, tous les vidéoblogs qui ont eu lieu avant la série, et donc avec le recrutement des colocataires, qui est assez bizarre.
Voilà, donc ça c'est aussi dans la série puisque c'est des inter-épisodes.
Ça devient de plus en plus dur de trouver un logement sur Paris, je crois.
Alors on va un peu parler du DVD aussi puisque le packaging, rien que vous pouvez passer un quart d'heure à lire toutes les petites blagues qu'il y a sur le packaging puisqu'il y a un espèce de contenant en carton, vous l'enlevez, il y a encore d'autres blagues à l'intérieur sur la jaquette. Et les bonus sont super bien foutus puisque c'est à base d'écriture sur des cartons des pizzas. Les bonus assez rigolos puisqu'il y a un passage assez inénarrable de Régis Robert à la Japan Expo. Où il est dans le rôle de son personnage de demeurer énigme pour l'humanité, donc c'est assez rigolo de le voir comme
avec
ça.
Avec ses copains preneurs de son d'une case en moins qui sont en même temps en train de bosser pour nos lives, puisque le but du jeu c'était diffuser le soir même en fait plein d'émissions et ils sont visiblement morts de rire quoi. Mais le problème c'est qu'ils tombent sur des fans déjà de la série.
Oui voilà,
c'est la série est diffusée que depuis un mois, ils ont déjà des fans. Donc,
voilà, et donc on ne peut que vous conseiller ce DVD puisqu'il est pour le contenu, un contenu qui est quand même assez conséquent avec des bonus assez bien foutus et tout, qui est au niveau du prix pas si exorbitant que ça.
C'est une production amateur, ça se voit à l'image.
C'est ça qui est peut-être un peu rebuté parce que bon, au départ on voit un peu les soucis. Lié au tournage en amateur, notamment avec l'absence de moyens, mais c'est quand
le même... timing, l'éclairage et tout le reste. Mais le son est nickel déjà.
Et on voit déjà un talent d'écriture assez flagrant dès le départ, donc c'est ça qui quand même peut ne pas rebuter certains, mais justement justifier l'achat de ce DVD. Bonne surprise de la semaine, en tout
voilà.
cas.
Voilà. Après, vous pouvez vous taper les entre-épisodes. Ça, c'est dommage. Mais vous pouvez encore voir les vidéoblogs avant. Alors, donc, c'est filmé à la webcam. Avec tous les inconvénients de la webcam qui tombe du moniteur, truc comme ça, enfin, c'est un foutoir complet.
Et l'interface pour le chapitrage des épisodes, en fait, c'est l'écran d'ordinateur qui est en train de télécharger les épisodes.
Oh,
avec
Divix.
Les épisodes qui s'appellent Nerds _01 _ HDTV _LOL.AVI.
Oh, bon, voilà. C'est pas bien de pirater, c'est pas bien, attention. Hein. Là-dessus, la série est assez catégorique. Bref, pour moi ça a été le coup de cœur parce que c'est une production amateur qui a pu sortir et qui est quand même plutôt constante, justement en progression de qualité, c'est ça qui est étonnant, avec des guests qui vont en progression et là-dessus on est surpris. Déjà le premier épisode de la saison 2 avec une partie en animation, ça laisse augurer quand même une suite bien foutue. Là ils en sont au dixième épisode hein, si je me trompe. Je les suis pas tous, j'avoue pas tout le temps.
Ce qu'il y a de rigolo en voyant ce genre de programme, quand tu te dis mais il n'y a pas de journée de 24 heures pour tout le monde, il y en a certains c'est les journées de 48 heures, c'est pas possible.
et surtout c'est la preuve que il y avait les radios associatives à une époque, maintenant commencent à arriver les petites chaînes de télé qui ont pas de moyens mais avec des directeurs artistiques qui sont plutôt cool et qui laissent les employés partir avec les caméras pour faire du contenu et qu'on arrive à des trucs qui sont plutôt très très bien. Voilà, Nerds, on peut dire le prix c'est en dessous de 20 euros, voilà,
et déchets casés,
voilà, et ça, c'est pas en VO sous-titré mais je pense que tu vas le prendre malgré son doublage français du sport.
Ah bah si tu me le prêtes, y a pas de problème.
Hein. D'accord, ça tombe bien, ça s'appelle une transition, chers amis. Parce qu'il est 12h55. Et il y en a un qui fait pas grève, c'est du sport.
Ah bah tu vas pouvoir le recaler celui-là, tu vois.
Oh merde. Mais passe-moi le planning avant, mince.
Je te garantis, j'attaque avec une BD. C'est la sortie du mensuel dans les éditions Panini Comics du Astonishing X-Men numéro 31. Alors je vous avais dit, il y a un mois, un peu moins d'un mois, qu'actuellement, dans la série d'Astonishing X-Men, Joss Whedon et donc de ce fait John Cassaday s'était arrêté et donc l'histoire des Astonishing était un petit peu mise en veilleuse et que donc à la place, eh bien, il y avait ce fameux Phoenix Warsong qui est en train de s'achever, hein, puisque c'est une petite histoire, un arc de 5 épisodes. Là, dans le numéro 31, on en est au 4e épisode. C'est toujours dessiné magnifiquement. Alors là, ça, moi, c'est plus visuellement en fait que l'histoire m'intéresse, quoi, scénaristiquement, quoi. Bon, j'ai un petit peu de mal à rentrer dedans, mais enfin bon, ok, hein. C'est parce que je connais pas l'histoire de Phoenix originelle, tu vois. Quoi. Je sais pas comment ça s'est déroulé exactement. Alors, mais par contre, la grosse surprise, parce qu'on attendait plutôt ça, après les fêtes, c'est-à-dire début 2008, pas forcément en janvier, eh ben, on a quand même le retour de Joss Whedon et John Cassaday pour la suite, donc. De leur X-Men Astonishing Invincible, c'est le numéro de c'est le titre de l'épisode donc de ce mois-ci, et bon ça pète dans tous les coins et tout, il faut absolument qu'ils arrivent à choper le projet Breakworld pour péter le missile qui risque de péter la Terre tout entière, enfin bon c'est magnifique. C'est génial. Et il y a également le New Excalibur dessiné écrit par Chris Claremont et Scott Eaton. New Excalibur avec bien sûr Captain Britain, avec bien sûr avec Sage, avec Nocturne, avec le Fléau. Ouais. Alors lui il y va, hein. Puis
ils annoncent d'ailleurs Dazzler. Un spin-off de la franchise X-Men avec le Fléau aussi.
C'est quand même le bon personnage, il faut dire. Mais enfin dans le New Excalibur c'est pas le personnage principal. Parce qu'on a vu dans les épisodes précédents que bon, il y a beaucoup de son passé qui commence à être révélé. Et puis bon, c'est pas joyeux du tout, du tout. Et il y a toujours Madrox, hein, donc toujours dans le nouveau Astonishing X-Men paru chez Panini. Et ça, c'est disponible dans tous les bons kiosques, de toute façon. Parlons de télé à présent avec un événement qui a même fait l'objet de pas mal de reportages télé dans les journaux.
Même il s'agit
en France, hein, bien entendu, c'est la grève. Je vous explique un petit peu la raison par la suite. Vous avez pigé de toute façon de cette fameuse grève des scénaristes à Hollywood, qui est déclenchée donc depuis un peu un mois, hein, depuis le 5 novembre, et qui fait que pas mal de tournages, pas seulement au cinéma mais également à la télé, sont carrément reportés, des fois annulés.
Pas que des tournages, c'est carrément des émissions qui sont censées être en direct.
Les émissions en direct, c'est-à-dire enfin, tous les talk-shows, hein, où on croit que les mecs ils causent comme ça et qu'ils ont une faculté d'improvisation absolument géniale. Non, ils ont une faculté d'interprétation qui est géniale. Dave Letterman, les Jay Leno et Conan O'Brien et tout ça. Mais derrière, il y a une petite équipe de scénaristes qui est là et qui est chargée de leur écrire leur texte du début à la fin de l'émission.
On le sait.
On le sait,
c'est du stand-up comédie.
Il faut quand même apprécier la performance des gens qui arrivent à rendre la chose tout à fait crédible et tout à fait spontanée. Alors que c'est vraiment du truc très travaillé, y compris pour les invités. Hein, à signaler.
Les vannes sont écrites.
Voilà, les vannes sont également.
C'est pas
écrites.
Comme chez nous.
Alors en ce qui concerne les séries, là il y a du très récent. Et puis il y a une chaîne française qui est en train de se bouffer les couilles en ce moment, qui croyait avoir fait la bonne affaire en diffusant carrément, pratiquement en simultané, la série en France et par rapport aux États-Unis. C'est Prison Break, la saison 3.
Ouais. Pardon.
Hein, M6 qui est en plein dedans, c'est le 3e épisode, je crois, qu'il va être diffusé jeudi prochain, de la saison 3 de Prison Break. Il y a 13 épisodes qui sont tournés actuellement, mais donc il en manque encore qui ne sont pas tournés.
M6 qui a inventé la diffusion par l'eau est en train de se prendre à son propre piège.
Et donc pour l'instant, ça roule pour eux. Mais d'ici la fin janvier, s'il y a toujours grève, parce qu'il faut savoir que au-delà de la grève des scénaristes, c'était dû à principalement un contrat qui arrivait à terme entre les scénaristes.
C'est un accord syndical qui a été fait en 88 sur la redistribution des droits des films, des séries et des émissions. Et en 88, ils ont réussi à intégrer le fait que les rediffusions et les ventes de vidéocassettes et donc de DVD soit intégré dans le contrat.
Oui, mais on va y arriver, hein, de toute façon, quoi. On va y arriver, hein. Le problème, c'est que bientôt va arriver une autre échéance qui concerne un autre corps de métier, deux autres corps de métier, la guilde des réalisateurs et la guilde des acteurs qui pourraient également s'y mettre. Il faut savoir qu'il y a pas mal d'acteurs en ce moment, pas mal de réalisateurs soutiennent en ce moment la grève des scénaristes.
À fond, c'est impressionnant.
À Hollywood, que la précédente grève qui avait eu lieu, je crois, en
87.
En, en,
Non, il y en a eu une autre, pas longtemps.
Il y a pas si longtemps que ça, hein, avait quand même coûté 500 millions de dollars à Hollywood, hein, ce qui est pas négligeable quand même. Hein. C'est le prix d'un bon film, on va dire, ou des fois d'une daube. au niveau des autres séries, Desperate Housewives, la saison 4, le tournage a été arrêté jusqu'à nouvel ordre. Il y a que 9 épisodes sur 22 qui sont tournés. Lost, il y a eu 8 épisodes sur 16 qui sont tournés, mais bon, ça pourrait tourner au pugilat parce que Carlton Cruz, qui est producteur exécutif de cette série et qui est également scénariste de la série, a déclaré que carrément il réécrirait les 8 épisodes qui n'ont pas été tournés pour pouvoir les tourner, tu vois, quoi, en freelance. Enfin bon, ce qui fait hurler tout le monde. Enfin, tu vois, genre, on parle également hein, de l'embauche de scénaristes anglais, quoi, donc qui viendraient faire les briseurs de grève. Alors pourquoi ? Tu l'as dit en partie, hein, c'est dû au fait également qu'il y a l'émergence de ces nouveaux médias, qui sont l'internet, DVD, les mobiles, parce que la précédente négociation elle concernait bien les supports existants. Il faut dire qu'au niveau technologique, ça a énormément, mais alors évolué. Quand
les DVD étaient, enfin, ils avaient prévu et les nouveaux supports préenregistrés. Donc les DVD étaient inclus, mais ils n'avaient pas prévu effectivement
la diffusion online, les mobiles et tout
les
ça.
Mobisodes, en direct, les mobisodes de 2 minutes de 24, les séries documentaires, les mini-séries documentaires autour de Jéricho, par exemple, qui racontent justement tous les, qui racontent donc une histoire parallèle à Jéricho et en même temps servent à placer des documentaires et la publicité pour AT&T et tout le reste.
Voilà, alors il faut savoir que bon bah justement toutes ces tous ces nouveaux médias bah ça entraîne carrément de grosses sources de revenus quand même pour les studios hein, qui ne sont pas négligeables du tout. Alors qu'est-ce qu'ils veulent les scénaristes ? Il y a pas mal de revendications, principalement ils veulent ils ponctionnent actuellement, ils ont droit à ils ont droit à 4% du prix de chaque DVD vendu, et ils en veulent le double, c'est-à-dire 8% carrément. Ils veulent également une augmentation des droits sur les diffusions des séries, hein, donc 80% des droits sur les diffusions des séries sont réservés aux producteurs, tombent dans la poche du producteur, tu vois. Donc William Petersen, pour les experts, il est producteur, donc chaque fois que la série sera rediffusée, ben hop, ça fera un petit peu de pognon qui tombera dans ses poches, tu vois, ting. C'est ça, et donc ils veulent augmenter justement quoi le pourcentage réservé aux scénaristes en ce qui concerne les droits de rediff, et plein et pas mal d'autres revendications. Donc c'est pas terminé hein, pour l'instant, quoi, ça a l'air très très chaud. On arrive peut-être à un accord, ce qui serait bien pour les studios en tout cas, c'est de pouvoir négocier un accord justement avant fin décembre, histoire de pas avoir à se coltiner une double, voire une triple négociation avec les trois principaux acteurs, on va dire, hein, de la chaîne qui fait de Hollywood ce qu'est Hollywood. Hein. Donc, à suivre quand même.
Ce qu'il faut signaler, c'est que la situation ne s'est pas arrangée. C'est le principal rédacteur du Daily Show qui passe sur Comedy Central, qui est une espèce de guignol de l'info, mais de 30 minutes, avec des vrais présentateurs qui prennent des vrais extraits de parlementaires. Donc, il y a ce présentateur qui a fait. John Stewart, voilà, effectivement. Donc, il y a le rédacteur principal de cette série qui a fait une parodie de son propre show et il a pris des extraits donc de ce que disait le président de la MPA à propos oui le piratage nous coûte tant etc. Et à côté ce que disait le patron du groupe Warner sur combien rapportait la diffusion online, c'est-à-dire juste avec en fait vous regardez sur le net et des fois vous avez des pubs dedans, combien ça leur rapporte. Et il y en a pratiquement pour un demi-milliard de dollars hein, quand même en publicité hein, pour le groupe MTV. C'est pas négligeable. Donc voilà. Autre chose peut-être.
Autre chose, on va parler de série à présent. Hein, on va à suivre hein, quand même, hein, de toute façon, hein, cette grève des scénaristes, hein, c'est pas terminé, donc on suivra ça un petit peu d'un petit peu plus près. Des inédits à la télé, j'ai quand même réussi à en dégoter. Hein, je me disais à regarder le programme comme ça. En diagonale, que dalle. On va faire dans le tout venant. Non, il y a deux inédits, dont une série qui a été achetée parce que il y a le gros nom dessus, tu vois quoi. C'est l'affiche où t'as carrément la vitrine et tout, ça brille, ça flash, c'est mirobolant et tout. Et quand tu regardes le contenu à l'intérieur, tu rentres dans le magasin, putain, t'as des trucs. Oh là là, oh, qu'est-ce que c'est que ce truc et tout. Non, t'as que dalle. Enfin bon, hein, tu vois. Genre et c'est certainement ce qu'a dû ressentir TF1 en achetant cette série quoi, et c'est pour ça qu'ils ont carrément refilé la série à une autre chaîne TPS Star pour la diffusion. Il s'agit de Six Degrees. Six Degrees qui a quand même reçu quelques, il me semble, a été nominé, je crois, a été nommé deux ou trois fois au dernier Emmy Awards. Quoi, c'est une production de J.J. Abrams, alias Lost. Alors tu vois, direct et tout, on voit J.J. Abrams, hop, on achète. Seulement la série. Elle parle justement de cette théorie des 6 degrés, 6 degrés, des 6 degrés de séparation. T'as déjà entendu parler de
oui,
ce truc-là?
Bah c'est tous les le principe qu'on applique maintenant sur les réseaux sociaux comme Viadeo, LinkedIn et tout ça. C'est-à-dire qu'on est George Bush serait à 6 poignées de main, enfin il y en a qui disent beaucoup moins, de Ben Laden.
Voilà, selon la théorie des 6 degrés de séparation, chaque être humain est relié à l'ensemble des autres par une chaîne composée de 6 personnes. Et donc le principe
c'est une théorie
de cette
qui
série,
date des années 20,
ouais,
faut savoir.
Le principe de cette série, c'est de prendre donc ici 6 New-Yorkais qui sont Carlos, un avocat idéaliste, Whitney, une ambitieuse publicitaire qui est mère célibataire, Steven, un photographe en mal de vivre et d'inspiration, Laura, la veuve d'un journaliste, Damian, un criminel repenti dont le frère est également un criminel, mais une jeune fille au père qui a des secrets cachés. C'est interprété par Erika Christensen, Campbell Scott et Hope Davis, entre autres. Ça fait un flop, mais alors monumental aux États-Unis. Ce qui fait que la série Six Degrees compte 13 épisodes et s'arrêtera là sans problème. Et c'est diffusé par TPS Star demain à partir de 22h40. Demain dimanche, 22h40. Donc deux épisodes de Six Degrees, le pilote et le deuxième épisode, What Are the Odds? Une autre série inédite, c'est diffusé un petit peu en catimini, mais enfin bon, ça peut peut-être se comprendre, quoique le sujet et la provenance peuvent indiquer qu'on aurait peut-être dû préférablement le diffuser le soir, hein, c'est quand même du moins 10 je crois, en plein après-midi, c'est pas top quand même. Ça s'appelle Cape Wrath et c'est une production britannique et c'est diffusé, alors bizarrement, sur Canal+, c'est une mini-série, on va dire, hein, de 8 épisodes. Ce sera diffusé la semaine prochaine sur Canal+ décalé, le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi, à partir de 14h45 l'après-midi, à raison de 2 épisodes par jour. Hein. Il y a une mini-série de 8 épisodes. Alors, le pitch est le suivant. Une famille est prise en charge par le système de protection des témoins qui l'installe à Meadowsland, une petite bourgade entièrement peuplée d'habitants qui ont bénéficié du même programme. Avec au programme suspicion, paranoïa, mystère, danger, série britannique, donc avec de 8 épisodes, avec donc dans le rôle principal le rôle du père de cette famille qui est pris en charge, David Morrissey, hein, qu'on avait vu dans State of Play entre autres, magnifique, excellent, et sa femme donc interprétée par Lucy Cohu. C'est diffusé donc par Canal+, c'est décalé la semaine prochaine, lundi, mardi, jeudi et vendredi, à raison de 2 épisodes par jour. À partir de 14h45, ça s'appelle Cape Wrath. Alors, ça faisait longtemps que je vous avais pas parlé de FBI porté disparu. J'en profite, lundi prochain, le premier épisode et le seul épisode diffusé de la saison 5, c'est-à-dire inédit, sur France 2 à 20h50, et l'épisode à fleur de peau qui est le 20e épisode hein, de la saison 5 qui en compte 24, et il est réalisé par Martin Fitzgerald, Eric Close.
Oui, le jeune là. Le celui à aux yeux clairs là.
Voilà, ouais. Celui qui se tape Poppy Montgomery à un moment. Dans la saison 3, je crois, ils sortent ensemble à un moment, quoi, tu vois. Ouais, mais maintenant il y a Roselyne Sanchez, tu vois, c'est plus la même chose là. La concurrence est rude quand même.
C'était celui qui jouait dans un agent très secret, non?
Oui, c'est ouais. ça. Ouais.
Ah, cette bouse!
Ah, ouais.
Oh, c'était pas mal, moi j'aimais bien.
Ça
hein.
Chie.
Oh, je l'ai vu dans le téléfilm hier soir, tu le crois pas, quoi.
Ah, j'ai
regardé. Jeune et tout, ouais.
J'ai zappé en regardant.
T'as zappé, ouais. Ouais. Torse poil et tout, tu l'as vu là?
Oh, même pas, j'ai tenté de m'intéresser 2 minutes. Je crois que mon ordinateur a compté 1 minute 53.
Là, revenons-en donc à Portée disparue avec, c'est lundi 20, à 20h50. Donc l'épisode à fleur de peau est réalisé par Eric Close, hein, de la 5e saison, et suivi de 2 épisodes de la saison 1, l'épisode suspect, le numéro 5, et grand frère, le numéro 8. Un petit crossover qu'on avait déjà vu sur TF1, et ils ont décidé de remontrer, pourquoi pas, c'est pas mal, c'est bien foutu. Non, mais c'est vrai, hein, c'est New York UTT spécial ce soir sur TF1. Exceptionnellement très tard, mais c'est normal. Il y a l'élection de Miss France hein, ce soir. Hein.
Oh là là,
Ouais, mais il y a 4 épisodes de Jericho ce soir.
En plus, tu vois, quoi. Ça, c'est de la full frontale, hein, concurrence à fond, quoi, tu vois. Alors, donc, ça concerne l'épisode de New York Unité Spéciale à 23h50 numéro 2 de la saison 7, donc très récent, La Manipulatrice, première partie, suivi justement, crossover oblige, et bien de la deuxième partie dans un épisode de New York Police Judiciaire de la saison 16, l'épisode 2 également, parce que les deux épisodes en fait ont été diffusés pratiquement en simultané, enfin, pas en simultané, on a laissé le temps aux téléspectateurs de pouvoir
se manger des pubs.
Voilà, c'est ça, quoi, pour qu'ils puissent suivre les deux, alors que ce sont deux séries différentes, on va dire, mais publiées par la, diffusées par la même chaîne. Voilà, je vais y arriver. Donc, La Manipulatrice. Numéro 1, numéro 2, c'est samedi, ce soir, donc sur TF1, à partir de 23h50. Demain, une petite soirée en version originale. Alors là, je suis tombé sur le cul dimanche dernier parce que bon, bah, je me suis dit, je vais zapper comme ça après Shark, voir de quoi il en retourne. Parce que moi, j'aime bien en plus cette série Wanted sur Paris Première, qui est diffusée sur Paris Première. Alors, on a Shark en première partie à 20h50 avec deux épisodes. Là, c'est bientôt la fin de la saison de Shark avec Le Sacrifice. Numéro 19 sur 22 et divisé pour conquérir en numéro 20 sur 22. Shark est moins 10 alors que Wanted est catalogué moins 12. C'est normal, c'est assez violent quand même, en particulier le premier épisode de ce soir. Mais la grosse surprise et la bonne surprise, c'est que c'est diffusé en version multilingue. Donc on peut également voir Wanted, l'excellente et dernière série produite par Aaron Spelling.
À partir du moment où il a dit multilingue, il a arrêté de dire Wanted, mais Wanted. Attention là, on a l'enregistreur.
J'ai appuyé sur la croix et tout. Donc avec bien sûr Gary Cole, Litter Gessen. Alors premier épisode qui est vachement bien baston, c'est le gang des Coréens. Suivi, Wanted, c'est à partir de 22h25. Baston. Suivi de Descendre aux Enfers. Sinon, vas-y,
Docteur, tu peux lancer ton retour truc. De Docteur.
Vas-y, tu peux lancer ton truc là.
Allez, fais-toi plaisir. Allez,
je t'ai dit de le recaler en plus.
Oh là là,
franchement quoi. Alors, à mon avis, tu seras devant ta télé lundi, non, mardi prochain à 21h. En plus, t'as CinéFX, donc t'as aucune raison de louper ce film. Il s'agit de Doctor Who and the Dalek.
Déjà vu.
De Gordon Fleming.
67 ou 68, je ne sais plus.
65.
Merde.
Ouais. Avec Peter Cushing, donc.
Oui,
Roy Castle et Jeremy Linden.
Et Peter Cushing, il joue le rôle du Docteur?
Eh oui,
mon gars.
Eh oui, mais il faut savoir en fait que les films,
non, à l'époque,
que les films c'était des producteurs et des scénaristes différents de la série. C'est-à-dire dans la série, le Docteur, voilà, est un alien, etc. Dans les films qu'ils ont fait dans les années 60, c'est un savant. C'est un savant anglais, pure souche, qui adore le thé et tout ça, et qui a conçu donc un appareil pour circuler dans l'espace. Bon, on n'explique pas comment il fait pour mettre autant de choses dans une petite boîte bleue. Hein.
Voilà, donc c'est mardi, prochain sur CinéFX à 21h, Doctor Who and the Dalek. Sinon, mercredi prochain, dans CSI Manhattan, un épisode de la saison 3, deux épisodes de la saison 3, cool, ouais, à 20h50 sur TF1. En principe, parce que TF1 qui a la priorité sur le choix du match de Ligue des Champions, tu savais ça?
Oui,
est-ce que tu savais
oui,
le choix des matchs de Ligue des
Champions?
Ah,
c'est eux qui décident de qui se rencontrent.
Doit choisir entre le match de l'Olympique de Marseille mardi ou le match de Lyon le mercredi. Et donc pour l'instant, ils ont choisi l'Olympique de Marseille contre Liverpool. Les deux matchs sont capitaux.
Oui,
hein,
parce qu'il y a Lyon contre les Rangers.
Les Rangers, voilà.
Ouais, mais autant prendre
Rangers
le
Rangers contre Lyon.
À Glasgow.
À Glasgow.
Autant prendre le film comique, Marseille.
Et donc, c'est un petit peu sous réserve, mais si ils prennent donc Marseille TF1 mercredi prochain, CSI Manhattan, comme chaque mercredi, avec deux épisodes de la saison 3, dont le premier, et ce sont les deux derniers d'ailleurs, la saison 3, hein, le 23 et le numéro 24, dans le numéro 23 qui s'appelle Double Jeu, la participation de John McEnroe qui joue le rôle de John McEnroe et d'un monsieur qui s'appelle Jimmy Nelson, donc il joue deux rôles en plus dans ce CSI Manhattan.
C'est pour faire croire qu'il a des talents d'acteur après s'être gaufré dans son émission sur CNBC.
En fait, c'est John McEnroe, dans l'épisode, c'est John McEnroe qui est accusé de meurtre, quoi, et donc il doit prouver c'est pas lui qui l'a fait, et pourtant il y a des gens qui l'ont vu, mais il y a des gens qui l'ont vu autre part et tout. Enfin,
oui, avec ses antécédents,
bon, parce qu'il a un double.
De la raquette.
Tout simplement, il a un double. Ouais,
et
ouais.
Il s'énerve facilement dans l'épisode ou non?
Ah ben on verra. non, mais à voir donc.
Ce que vous savez pas, c'est que quand même John McEnroe a une carrière pour un talk show du soir sur CNBC.
Si,
qui est une
on
chaîne,
le savait, ouais, on l'a vu.
Qui est une chaîne boursière. Et il
fallait garder son calme, oui.
Non, mais c'est pas ça le plus drôle, c'est l'audience qu'il a fait. Nielsen Ratings a dit c'est la première fois que sur une chaîne majeure du câble, on est arrivé à une audience de zéro. Il s'est fait mais buller et il a acquis une réputation de loser total.
Tu vas voir, ça va le faire. En plus, avec également la version multilingue sur CSI, sur TF1. Tu peux y aller.
Attends, je le note, ça va le faire
quand même.
CSI Manhattan mercredi.
Alors et jeudi, bon bah rien d'autre à dire.
Ce qui paraît, il y avait Suicide Girl mercredi dernier, je l'ai loupé, tu vois.
Jeudi, rien à dire. Canal Jimmy, jeudi 20h45. Soprano, les trois derniers épisodes, donc le grand final de cette magnifique saga à propos de la famille Soprano et des autres familles, hein, parce que Soprano ils sont de New Jersey, mais il y a les familles new-yorkaises, des fois bien l'autre. C'est une histoire de famille, donc c'est beau, c'est géant, c'est magnifique. Je sais pas si t'as vu les avant-hier, ça va quoi ça. Les trois premiers, bon, jeudi d'avant, c'était un petit peu cotonneux, mou comme ça. Là, jeudi dernier, là, c'était un petit peu plus chaud avec donc Nancy Sinatra et tout. Mais alors, elle est refaite de partout, tu ne le crois pas, c'est incroyable. Elle ressemble à toutes les autres nanas refaites, tu vois. Ça qui est un petit peu dommage.
Botox.
Bon, donc les Sopranos, ah ouais, Botox. Et le reste.
Oh non, écoute, on n'a pas le sticker moins 16 là.
Alors, les Sopranos, jeudi prochain sur Canal Jimmy à 20h45. Et on termine avec une petite sélection. Et ça faisait longtemps, mais alors très très longtemps, j'ai remarqué, que vous n'avez pas fait une sélection de films de RTL9.
Ah oui.
Et de deuxième partie de soirée.
Alors, à boule.
On est tout oui. Avec ce soir. Ce soir, ouais, il est bien celui-là. Moi j'aime bien, c'est les Faucons de la Nuit à 22h40, le Bruce Malmuth avec Sly Stallone et Billy Dee Williams. Et c'est le film où il y a un terroriste qui veut faire péter New York et tout.
Dans ce film introspectif, Sylvester Stallone joue le rôle d'un chasseur de terroristes.
Avec également Lindsay Wagner et Persis Kambata. Ouais, demain soir à 22h30, toujours sur RTL 9. Tremors, le film, l'original de Ron Wood avec Kevin Bacon, Fred Ward, Finn Carter et Michael Gross, donc toute la fine équipe est là. Lundi à 22h35, Danger Haute Tension, ça c'est plutôt un téléfilm hein, de Paul Golding de 88 avec Cliff de Young et Roxanne Hart. Attention. Mardi, ouais, le retour à deux en troisième semaine de Double Impact de Chef
Petit.
Oh non,
encore.
Eh oui, il se dédouble même dans les pubs pour la téléphonie.
Eh ouais, bah tu vois, c'est l'occasion, hein. Double quoi. Double carrément.
Double JCBD.
Donc avec Bolo Young, l'histoire des jumeaux, enfin bon, d'accord, ok. Mercredi, un autre incunable du film d'action, comme tu dirais, sévèrement burné. C'est à 23h, un justicier dans la ville de Michael Winner.
Bronson.
Oh, Bronson, ouais, il est fâché, très fâché d'ailleurs dans ce film.
Pas content.
Et non, mais il est pas mal quand même.
Faut jamais énerver les architectes dans les années 60, on sait pas ce qu'ils peuvent faire.
Non.
Ils peuvent par exemple faire le Mirail.
70, dans les années 70.
Oui, mais ils peuvent faire le Mirail.
Ouais. Bon, le jeudi sur RTL 9, il y a du catch américain, donc, le vendredi, eh bien, c'est le film érotique du vendredi soir. Avec un petit Tinto Brass, qui peut-être se laissera regarder, hein, c'est pas n'importe qui, hein, monsieur Tinto, de 92, All Ladies Do It, avec Claudia Cole, avec Ornella Marcucci, avec Isabella Diana, ouah, on en bave déjà.
Et ainsi se termine le supplément week-end. Thomas, peux-tu faire le résumé, je te prie, pour ceux qui ont pris l'émission en cours de route?
Oui, nous avons eu de la BD du Lombard, du Papa Noël, de la BD chinoise, de l'Heroic Fantasy Burnet, de la série... qu'est-ce que j'ai marqué, moi? Ah oui, de la série amateur pour les geeks, des grévistes aux États-Unis, du multipassage de Doctor Who, des films sur RTL 9, dont un film érotique italien.
Bienvenue en enfer, vous avez manqué tout ça. Heureusement, lâchez vos coms et réécoutez l'intégralité de cette émission avec les chroniques écrites, mais aussi fouillez dans les archives, lâchez vos coms, et posez vos questions, n'hésitez pas, c'est possible. Vous allez sur, vous ouvrez un navigateur internet, style Internet Explorer, Firefox, Safari, ce que vous voulez, Opera, et vous tapez supplémentweekend.tk. Alors, supplément weekend, sans accent, sans tirer.
Tout attaché,
supplémentweekend.tk. Et comme ça, vous retrouvez tout et vous pouvez réécouter. Et puis, le fameux Aurélia Horita incident, toutes ces plaisanteries du Super Weekend.
Il faut toujours que tu trouves un moyen de parler de toi encore, mais c'est pas possible.
Hein. Oui, alors on va reparler de toutes les chroniques où Thomas m'a massacré en règle et tout le reste, mais bon.
Oh, on est à égalité en
soi. Et les chroniques de Thomas, bien sûr, vous pouvez massacrer en direct et en public, et même parler, discuter de sa sélection de ses 15 jeux vidéo préférés.
Ah, j'ai pas fini encore.
Mais
il en reste 3.
Ouais, à mon avis, il manque là. En 3, tu peux pas tous les mettre là.
Mais surtout qu'il y a des jeux qui m'ont marqué, mais dans le mauvais sens aussi. Il risque d'y avoir des merdes.
La suite des programmes sur Radio FMR, votre cahier sportif de suite, ça c'est du sport, 17h, Ja, not dead, c'est du reggae, 17h, ça c'est de la bonne viande, c'est de la charcutaille, 18h, Big Bang, c'est un truc qui va bien secouer quoi, sa race, 19h, Made in Trance, 20h, de électro bien barré avec la Cetero Experience avec DJ Jésus, 21h30, 9 Love, c'est du Two Step, et à 23h, le potager, l'actualité live. Vous écoutez FMR sur 89,1 MHz, nous sommes en direct de midi à 5h du matin et on continue sur www.radio-fmr.net et vous retrouvez la semaine prochaine le supplément week-end, samedi à midi, sinon sur notre site internet.
Ciao ciao,
bye bye et bienvenue en enfer.